Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, c'est Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B, une émission en compagnie de Roger.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonjour, devrais-je dire. Mais c'est parce que le temps, vous avez vu, c'est un
c'est
petit
tout gris.
Peu, ouais, c'est un petit peu incertain, on va dire. Donc du coup, on ne sait pas trop s'il fait jour ou nuit. C'est changement d'heure. On a changé d'heure dimanche dernier. Je ne sais pas si vous en rappelez.
Exactement, l'ami. Exactement, l'ami. Mais je suis content. Vous avez meilleure mine que la semaine dernière.
Alors, la semaine dernière, je dois avouer que malheureusement, j'étais entre les griffes de mon compatre, de mon acolyte
alcoolique
Jean-Louis Rossou, et effectivement je n'aurais pas dû et je n'aurais plus chercher des excuses aux auditrices, auditeurs pour avoir joué avec un pochon, laisser sonner mon portable. Qu'est-ce que j'ai fait encore?
Ah, vous avez bien embêté le fifrelin.
J'ai embêté. Oh, mais attendez, il nous faut.
Alors, il y a une histoire de jaquette, il paraît.
Ouais, mais quand même, faut pas déconner, quoi. La jaquette, il pourrait quand même.
C'est pas clair, cette histoire.
Ah, c'est pas clair, les petits machins, les petits suppléments qui disparaissent, enfin je sais pas. Nous on veut bien aider le petit commerce.
Oui.
Mais il faut que le petit commerce joue le jeu.
Exact. Enfin, on appelle ça la coopération.
Voilà. Alors, du coup, mercredi ce jour, nous n'avons point de la librairie dont nous tairons le nom, parce qu'ils sont, ils sont en dédicace. Il y a des gens qui viennent chez eux, donc c'est un peu le branle-bas, ils sont obligés de faire du ménage.
Passer un coup de balai,
libérer le client qu'ils avaient shippé en train de voler un bouquin qui est en prison depuis je sais pas combien de temps dans la cave. Enfin bref, pas mal de choses à faire, pas mal de choses à nettoyer. Donc ils ne seront pas là. Aussi, on va en profiter pour passer une interview de monsieur Joël Alessandra.
Exactement.
Un auteur, je dirais, que l'on pourrait qualifier de charmant. Charmant, c'est tout le charme aussi de ses origines, sans doute. On a eu pas mal de gens, alors on dit comment, outre-alpin.
Ouais.
C'est ça, hein. Franco-italien, monsieur Joël Alessandra, qui a réalisé un ouvrage autour de la mémoire de, comment dirais-je...
Les traces d'Arthur Rimbaud en Afrique, j'ai envie de dire.
En Éthiopie, et puis, y aurait-il un espèce de recueil, un dernier livre, un dernier recueil caché de Rimbaud.
Ouais, voilà. En fait, Joël Alessandra se met en scène menant une enquête, effectivement, sur les pas d'Arthur Rimbaud, qui a abandonné la poésie à 19 ans, je crois, etc., et qui est parti trafiquer du côté de la Corne de l'Afrique, tout ça. Donc en fait, on le suit jusqu'à Aden, dans mes souvenirs, et même dans d'autres villes. C'est fait comme un carnet de voyage.
C'est magnifique.
Ouais, c'est de l'aquarelle, c'est très réussi. Enfin, moi j'ai lu que le livre parce que j'ai pas vu le monsieur, si vous vous souvenez bien.
Ah oui, c'est vrai que ce jour-là, vous étiez en mission pour le Seigneur. Alors c'était, vous m'avez rejoint après, mais c'était la première interview du samedi, et j'ai dû la réaliser tout seul parce que...
On pensait être court de la carte SD.
Ouais, on aurait été court de la carte. Faut pas se mentir, on aurait été court de la carte. Donc, comme vous êtes quand même aussi le technicien de l'affaire.
J'ai acheté une carte SD et je vous ai laissé tout seul.
Voilà. Et donc, j'ai réalisé ça, non pas sans avoir...
Bah oui, parce que comme vous parliez de l'homme au sommet de vent qui prend la mer, vous m'avez inventé une histoire où je prenais la mer aussi, quoi.
C'est ça, c'est en tout cas ce que j'ai
fait croire. J'arrêtais tout, je partais.
À notre excellente... ami Emmanuel Klein, des, comment dirais-je, attaché de presse, je tiens à rappeler que nos blagues sont garanties 100% sans méchanceté. Mais moi, j'ai adoré ce côté. Elle était inquiète pour vous, quand même. J'ai vu beaucoup d'empathie dans son regard quand elle m'a dit, tu déconnes. J'ai dit, non, là...
Il veut prendre la mer,
il veut prendre la mer, là, puis cette espèce de grand bateau monstrueux, ça lui parle. Et sa femme et tout, et puis je dis, mais je crois que j'avais plus grand-chose à se dire.
Je sais pas comment vous faites. Est-ce que vous faites... L'Iran, ça vous dit rien? Vous pourriez peut-être essayer d'arranger un truc là-bas aussi.
Moi, je rêve d'être embauché dans la diplomatie. Je rêve de pouvoir effectivement raconter des histoires. Trump est pas mal en ce moment dans le racontage d'histoires.
Ouais, ça va passer. Ça va lui passer. Bref, Jeu est un autre, tel est le titre de l'album. Un voyage avec Rimbaud, Joël Alessandra, aux éditions Daniel Maguen, on peut le rappeler. Hein, un fort beau livre, quoi, avec des très jolies aquarelles, carnet de voyage, et puis de la musique, et puis un peu de news, et peut-être un peu de chronique, on va voir selon comment on commente l'actualité. Interlude musicale, comme on dit, allez, dance to the radio. les Quatangers, petit groupe qui nous interprétait Bimbo. C'est, ça, on commençait sweet.
Oui, parce que les Quatangers sont des morceaux un peu plus...
Plus vicieux, ouais, 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 trio que j'aime féminin, effectivement garage, très très bien. Je suis sûr que vous avez entendu la news, forcément.
Vous savez ce qu'on dit, des mauvaises nouvelles, elles arrivent toujours plus vite que les autres.
Du décès de Monsieur Herman.
Yep.
Qui était quand même une figure de la bande dessinée franco-belge, hein, avec des séries comme Jérémia est peut-être la plus connue, mais il y a eu La Tour du Bois Maury, dans mes souvenirs.
Alors, ça dépend des lecteurs, en fait, effectivement, parce que des lecteurs plus anciens, eux, ils vont te citer Comanche. Moi, c'est plus la série...
Jérémia ?
La dystopie, Jérémia, l'excellente série.
Alors moi, tu vois, le premier album qui m'est revenu en tête...
Et Les Tours du Bois Maury, non plus, c'est peut-être génération un peu plus jeune, peut-être encore.
Ouais, moi, l'album qui m'est revenu en tête quand j'ai appris son décès, ce monsieur Herman, c'est un Bernard Prince, Le Piège aux 100 000 dards.
Qui
était très bien.
Ouais, alors il a bossé avec plein de gens. Il a bossé avec Greg Van Damme ou même avec son fils.
Ouais, Brigandus, je crois. Ils ont fait, c'était le dernier album qu'ils ont fait tous les deux, une série antique. Puisqu'on suivait un légionnaire romain perdu en Britannie. Jérémia, une super dystopie, effectivement. Je me souviens d'un épisode, Hiver de Clown, je crois que ça s'appelait. C'est avec un petit personnage qui était sur une espèce de luge à mallette, là. De nain, on aurait dit... tu sais, cette série avec un petit nain, justement, sur une île, l'île fantastique. Il y avait un côté les petits nains, comme ça, intrigants.
Et il avait créé... c'est vrai qu'à travers cette série-là, j'aimerais bien vraiment une...
Des tas de bizarreries.
Ouais, mais une dystopie qui tenait la route, quoi. Il y avait la nation indienne.
Il y a un côté Far West, en fait, dans cette dystopie aussi.
Il imagine que ça retourne au Far West, quoi. Puis avec les clans qui se sont faits, quoi.
Les chevaux, les cow-boys... Le désert.
Puis les deux personnages antinomiques et comment. Et puis j'adorais, moi, Kirby. Kirby, pardon. Avec son casque, son vieux casque américain de la Seconde Guerre mondiale et sa plume, là.
Super graphisme, ça.
Et il a fait d'autres séries, peut-être un peu moins connues, comme Jugurtha aussi, en 67. Dès 67.
Ça, c'était de l'antique aussi. C'était un mec contre Rome, je crois.
Ouais, c'est ça, ouais. Jugurtha, ouais.
Oh, c'est vieux, ça. C'était bien.
Ouais, 67.
Il y avait toujours un souffle d'aventure, en fait.
Ouais.
Vraiment.
Et il a continué, Jérémia, sans désemparer. Est le dernier, Les Larbins, date de 2025, quand même, hein.
Ah oui, bah Brigantus, c'est pas très vieux. Je crois que le deuxième tome était sorti l'année dernière. Il travaillait avec son fils.
Ouais.
Oui. Il a un trait hyper reconnaissable, quoi. Tac.
Les gueules de ces personnages sont reconnaissables.
Ouais.
Et puis derrière.
Il a une manière de les faire sourire aussi. Tu sais, notamment Kirby et tout ça, ils ont un côté espiègle. Il y a beaucoup d'espièglerie aussi dans ce film.
Ouais, et puis les éclairages aussi parfois. Ouais. Il jouait super bien des couleurs. Ben voilà, Monsieur Herman nous a quittés. C'est triste, mais par contre, il ne nous laisse pas quand même tout à fait orphelin, parce qu'il nous laisse une œuvre colossale dans laquelle on vous invite à se replonger, notamment, Jugurtha, c'était dans Tintin.
Ah oui, exact.
Et j'ai des vieux reliés Tintin où il y a du Jugurtha. Tiens, je vais fouiller là-dedans, c'est ma chérie qui va être contente de voir foutre dans les vieilles caisses.
Vous allez remuer toute la poussière.
Ouais, ils annoncent pourri ce week-end, alors tiens, je vais remuer les vieilles caisses.
D'accord.
Voilà, merci Monsieur Herman, en tout cas, pour tout ce que vous avez fait pour nous, et lectrices et lecteurs de bande dessinée, en tout cas.
Ça, c'était pour moi la grande nouvelle de la semaine. Je sais pas si vous avez autre chose.
Une autre nouvelle, moi, qui est pas fun. Alors, on n'est plus dans le tragique, parce qu'il y a pas mort d'homme, mais il y a mort quand même d'une vieille tradition, à savoir que Disney a retiré sa licence à l'éditeur français qui publiait le journal de Mickey et Picsou Magazine.
Ouais, c'est Panini, non, qui récupère, je crois.
Ouais, allez-y, spoilez-moi tout l'affaire, parce que j'allais vous poser la question, comment qu'on appelle Mickey en Italie ?
Je sais pas, Topolino.
Bien, voilà. Alors, il faut quand même savoir que les magazines jeunesse Disney représentaient la moitié du chiffre d'affaires du groupe de presse et d'édition Unique Héritage Média, qui devra se séparer d'une partie de ses effectifs. Merci, Mickey.
Qu'une boîte américaine travaille avec Panini, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça m'étonne pas. Ils travaillent déjà avec Marvel et tout ça, donc il y a peut-être aussi à voir dans l'ordre de la confiance.
Ouais.
C'est pas.
Donc voilà. C'est une licence que l'éditeur.
C'est une maison sérieuse quand même, Panini, quoi.
Que l'éditeur français avait récupéré.
Et que les Américains connaissent.
Avait récupéré en 2019. Mm. Et comment.
C'est un coup de Trump.
Bah, allez savoir. Allez savoir.
Je dis ça, je dis rien.
Alors qu'on nous avait dit, l'affreuse souris avaricieuse, là, elle avait dit que, alors que le contrat avec la société française devait expirer en septembre 2026, il serait régulièrement renouvelé. Et bien, il y a 6 mois, la filiale de Disney France a fait savoir dans un courrier sec que cela ne serait pas le cas. Non, courrier sec,
sec,
je lis.
Sec.
Courrier sec. Et vous savez dans quoi j'ai lu ça? C'est dans le Figaro. Et je suis en train de vous lire le Figaro, c'est pas tous les jours. Et la direction d'Unique Héritage Média a d'abord tenté de négocier sans succès. La décision n'a pas été motivée. On ne sait pas pourquoi Mickey a choisi de ne pas renouveler la licence, raconte Emmanuel Mounier, qui ne sait plus non plus à quel autre éditeur français Disney entend confier ses magazines par la suite. Bah, ce ne sera pas français, c'est italien officiellement, Panini.
Ah, je ne sais point. Je dois avouer que je ne sais point. Moi, je pensais que c'était français.
Ah, ok, moi, je pensais que c'était italien, moi, Panini, avec un nom pareil.
Ah, j'en sais rien.
J'en sais rien non plus. Bon, on vérifiera, on vérifiera.
Bah, creusez vos dossiers, mon vieux.
Attendez, je lis jusqu'au Figaro, moi, pour alimenter cette émission. Mais ce que je fais, même une bête ne le ferait pas. Et Emmanuel Mounier qualifie la décision de la souris d'arbitraire.
Oui, Panini, maison d'édition italienne.
Eh ben voilà.
Consacrée aux comics.
Voilà, d'autant plus. Mais moi, je savais pas que c'était Panini. C'est vous qui m'avez dit ça aujourd'hui. Non, c'est moi, parce que je l'ai entendu sur France Inter ce matin.
Ouais.
Mais le souci, c'est que, ben voilà... en plus, alors que ça marchait bien avec nous, parce qu'il disait que nos publications Disney superforment le marché depuis 2019, donc c'est complètement incompréhensible. En clair, environ 2 millions d'euros sont versés chaque année à l'affreuse souris avaricieuse au titre de la licence. Vous imaginez ? Eh ben, c'est pas assez.
Alors Panini diffuse aussi dans d'autres pays, quoi. Espagne,
oui, mais
Italie.
Espagne, il y a Mickey en Espagne déjà. Il y a des Mickey partout.
Bah, peut-être qu'ils veulent. Est-ce qu'ils ont fermé des productions, des éditions ou des impressions en Italie et tout ça? Peut-être qu'ils ont recentré tout sur une seule boîte qui peut déverser partout. C'est peut-être une stratégie économique.
N'empêche.
Il y a forcément une raison.
N'empêche que le journal de Mickey se vend en moyenne 48 000 exemplaires au numéro, moins 7%. En un an, par contre. 40 000 par abonnement et Picsou Magazine, 60 000 exemplaires par numéro. Mmh. C'est marrant, Picsou Magazine a devancé de loin le journal de Mickey. Comme
ouais,
quoi, il y a des personnages qui marchent mieux, comme quoi.
Ouais.
Et le problème pour cette société, c'est que l'édition des magazines de la souris écossaise, eh bien, représente environ 50% de ses revenus.
Mmh.
Voilà. Voilà, bravo. Eh ben moi je dis, chapeau la souris. Voilà, il
merci
met des
bien.
Ouvriers français au chômage.
Merci,
Mickey. Ben oui, il faut boycotter désormais le journal de Mickey. Enfin, à partir de 2027, moi je boycotterai Mickey. Et puis c'est tout.
Très bien. Interlude musical, comme on dit,
ouais,
dans cette émission. Dance, dance to the radio. Tiens, moi aussi j'ai des filles à vous faire écouter. je vous proposais, moi, les Courtenays avec Mars Attack. Excellent petit morceau pop, ça aussi. Est-ce que vous connaissez le Palais de la Porte Dorée ?
Alors, le Palais de la Porte Dorée, c'est sûrement le titre d'une bande dessinée dont vous allez nous parler.
Non, mais c'est un lieu, c'est un vrai lieu, mon beau Roger. C'est pas le palais du Fu Manchu ou
si,
c'est pas
moi, ce que vous imaginez. Je disais que ça allait être une connerie comme ça.
Mais c'est bien, vous êtes ouvert au reste du monde. Parce qu'en fait, le palais de la Porte Dorée, c'est le musée de l'histoire de l'immigration à Paris. C'est le musée national.
Ce qu'on appelait le musée des colonies avant.
Exactement, tout à fait. Ah, ça vous parle plus.
Ah bah, c'est un musée,
le nom là vous parle plus.
C'est un musée que j'ai visité la première fois, que m'a fait découvrir un pote qui l'adorait.
Moi, je l'ai visité aussi.
Moi, mon ami Fred, un franco-vietnamien, puis ça lui parlait du coup, un musée des colonies. Et comment il y avait des collections assez exceptionnelles d'objets pillés à ça et là, dans nos vaillantes possessions françaises. Et je crois qu'il avait été inauguré pour une exposition coloniale d'ailleurs.
Mmh,
et c'est peut-être même le seul bâtiment en dur qui subsiste de cette exposition coloniale.
Exact. C'est devenu le musée national de l'histoire de l'immigration.
Maintenant, le palais que j'ai revisité depuis, qui est très intéressant.
Ouais. Exactement, où on a en fait toute l'histoire de l'immigration en France à travers des tas d'objets, des petits films, des photos, etc. C'est vraiment un musée très intéressant pour rappeler, on va dire, que l'histoire française a une composante migratoire et que c'est ça, là depuis très longtemps. En fait, là, on nous a inventé une... Flore Talmont et Bruno Lotte nous ont inventé une petite histoire qui va nous permettre, en fait, de rencontrer 9 objets, j'imagine réels, de ce musée, et qui vont prendre vie, en fait. La nuit, au musée, il se passe des trucs. Lors d'une visite scolaire, notamment, il y a deux gamins, Anna et Idriss, qui se retrouvent enfermés dans la réserve des collections. Vous découvrirez comment. Et puis, en fait, ils vont rencontrer des objets qui s'animent et qui vont raconter la vie de leur propriétaire. Et ainsi, tu vas pouvoir replonger dans plein de témoignages au fil et à mesure des années et des siècles. Donc, tu vois les migrants changer, les motifs, les provenances, les origines, etc. Les processus d'intégration, plus ou moins compliqués. Tu vas avoir donc 9 petits coups d'éclairage comme ça, via des récits de vie. C'est plutôt bien fait. C'est assez intéressant, assez pédagogique finalement. Je pense que c'est un bon bouquin pour, on va dire, éveiller peut-être l'adolescent à ces questions-là. C'est pédagogique. Moi, j'ai trouvé ça plutôt chouette et c'est assez émouvant, quoi, ces séries. Mais j'avais bien aimé le musée aussi. J'y avais été, le lieu très beau et c'était intéressant ce que l'on découvrait là-dedans, notamment, je sais pas, parce qu'il y a vraiment tous les migrants. Ça peut être les Espagnols de 36, comme les Boat People, quoi.
Et puis, il rappelle bien que comment...
La marche des beurs, enfin, vraiment des tas de trucs.
L'essentiel des migrations, au niveau en chiffres en tout cas, ce sont des migrations internes au continent du Sud. Mmh. Et c'est pas les vagues migratoires fantasmées par le Front National. Enfin, bref.
Mmh. C'est paru chez Delcourt.
OK.
Dans la collection Ancrage, qui nous offre comme ça des belles ouvertures pédagogiques, j'ai envie de dire. 9 histoires de migration, donc du 18e siècle à nos jours, inspirées donc par les collections de ce fameux Musée National Histoire de l'Immigration. C'est Flore Talmont au scénario, Bruno Lotte au dessin, un dessin plutôt efficace aussi, avec des choix de couleurs que j'ai trouvé intéressantes, vraiment. Il y a toujours une couleur un peu dominante quand on va dans les récits, un fond vert, un fond rose, enfin vraiment selon l'époque et le témoignage que tu écoutes, t'as un fond comme ça, une couleur, on va dire, dominante, et puis après t'as une colorisation plus classique quand on revient à nos deux adolescents égarés dans le musée qui explorent, quoi. T'as vraiment un beau travail. C'est très très chouette. Ça s'appelle Les Voyageurs de la Porte Dorée. C'est un petit côté fantastique, j'aime beaucoup. Et puis comment ça finit, ça je vous laisse deviner. Ou plutôt lire.
Yes. Eh bien, je vous remercie et ça va me faire permettre de rebondir.
C'était vraiment très intéressant.
Très intéressant.
Oh mon Dieu, mais quel salopio.
Attends, je vous ai... Hey.
Et il est même pas saoul, il est juste mauvais en fait.
J'ai la tête dans le voilà, j'ai la tête brouillée le vendredi quand je vois mon vieil ami Jean-Loup la veille, et c'est chiant.
Et vous avez remis ça ?
Ben oui. Oh, et puis il est passé avec un cubi, maintenant que c'est des vieux, ça vient avec des cubis, c'est une catastrophe.
Et dans un vieux pochon comme ça?
Non, il l'avait sous le bras, en fait. Il l'avait sous le bras.
Il a traversé la ville comme ça?
Ouais, bah ouais. Oui, normal. Maintenant, vous savez, lui et moi, nous sommes pensionnés désormais, donc on a le droit de faire ce qu'on veut.
Vous savez, la carte immunité?
Ouais, et on peut même s'asseoir et faire chier les jeunes. Bref, tiens, c'est pas très loin, en fait, de ce dont vous nous parlez, parce que qui dit immigration dit montée de partis, bien fachos, bien rastons. Et c'est un peu ce que nous raconte, monsieur Marc Dubusson, à travers son nouvel Amour, fascisme et CDD, paru chez Delcourt dans les collections Patakès.
Permettez-moi de douter un peu, quand même, de, du fond historique.
Alors, en fait, parce que l'action se
Marc
déroule...
Marc Dubusson?
Ouais, Marc Dubusson,
l'action... On parle du Marc Dubusson.
Voilà, l'action se déroule dans un ministère, qui est un ministère de service public, et on a dans la première planche, on apprend que le gouvernement a changé. Voilà, bon, et apparemment, en deux cas, dans deux cases, Monsieur Dubusson nous résume la motivation des électeurs, des électrices aujourd'hui. Vous avez regardé les élections hier soir, demande-t-elle. Non, j'ai regardé la finale de Danse avec les Stores. Qui c'est qui a gagné? Le mec un peu lourdin qui claque les fesses des meufs en criant bip bip. Non, je parlais des élections, moi aussi. Ah, ok. Donc voilà.
Oh mon Dieu.
Ça commence bien. Donc on se dit que déjà, on a toujours ce qu'on mérite. Quand on s'y intéresse pas, la politique s'intéresse à nous, elle, en tout cas. Et le ministère est confié à un affreux bonhomme, Kowalski, qu'on avait déjà vu dans Amour, Djihad et RTT, du même Dubusson, dans la même collection, et qui nous racontait comment ce fameux Kowalski, devenu, extrémiste, fondamentaliste, essayait de semer la terreur dans l'open space. Et là, c'est l'arrivée d'un nouveau gouvernement qui dit nouveau gouvernement, dit nouveau ministre de la coercition, comme dit Monsieur Dubusson, qui va s'occuper de faire chier les fonctionnaires. Et assez rapidement, l'ambiance dégénère. Alors toujours avec le système terrible de Monsieur Dubusson, c'est-à-dire une planche, un gag. Et il fait quand même progresser son histoire quand même par petites touches comme ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Et petit à petit, ça devient de plus en plus pourri. Les gens qui ouvrent leur gueule sont virés aux archives. Et là, le fond est tout noir. Et il y a un vilain qui est déjà là aux archives depuis le gouvernement précédent et qui les accueille. Et c'est tout pourri. Mais on rit, et puis petit à petit, les gens, ils vont plus. Certains personnages commencent à porter des casquettes. Au début, c'est des casquettes rouges, rappelez, qui nous rappellent des trucs. Et puis après, c'est des casquettes qui ressemblent de plus en plus à des casquettes de nazis, quoi. Mais c'est pas vraiment des nazis, comme on nous l'explique et comme veulent bien se confondre, se rassurer les différents protagonistes de cette histoire qui, petit à petit, laissent faire, en fait. On rit, certes, mais on sent chez M. Dubusson, quand même, un discours, je dirais, quand même plus explicite que dans Amour, Djihad et RTT, parce que dans Amour, Djihad et RTT, loin de lui de dénoncer l'intégrisme musulman, on était resté vraiment dans l'humour. Là, les personnages vous saoulent un peu, quoi. Leur lâcheté quotidienne, le fait que si ça leur tombe sur la gueule, c'est pas par hasard, manque de solidarité, etc., etc. Donc on se marre. Et en même temps, j'en parlais avec Monsieur Fifrelin, le responsable de la susdite boutique dont on tira le nom, et il me disait aussi, Monsieur Dubusson fait dans l'humour un peu plus grave, je dirais, mais tout aussi efficace. Et au niveau du dessin, c'est toujours pareil, c'est du petit personnage, hyper simple, ce qui a donné lieu quand même à une interview un peu surréaliste il y a 2 ans qu'on a eu avec lui, où on essayait de lui faire cracher le morceau en lui disant que qu'il savait dessiner mais qu'il masquait son talent, et lui de hurler mais puisque je vous dis que je ne sais pas dessiner, vous vous rappelez? C'était très très drôle.
Ouais, c'est les petits bonhommes avec grosses têtes.
Les petits bonhommes tout ronds, mais
on friait.
Ils ont des bras, mais ils ont pas de mains, ils ont pas de pieds.
Ouais, gaufrier, gros fond de couleur.
Ouais, gros fond de couleur.
Bavard. Bavard, très bavard.
Tout repose du coup, comme au niveau du dessin. Du dessin, c'est pas Herman, c'est clair. Et là, de fait, eh ben, Monsieur Dubuisson, faut bien qu'il a une autre arme, comment dirais-je, terrible.
C'est l'écriture, en fait.
C'est l'écriture. Et je suis content, parce que moi, ça fait quand même pas mal de temps que je vous dis tout le grand bien que je pense de
Monsieur. Mais je plussois, je suis d'accord avec vous, c'est un monsieur qui est très doué.
Ouais. Et maintenant, il scénarise également, il a même scénarisé une série d'albums jeunesse. Ils sont très, très, ouais, mais très, très bien. Vous n'êtes pas forcé de. Vous pouvez lire des albums jeunesse sans vous engager dans les encadreurs des petits-enfants des écoles primaires de Paris et être accusé de maltraitance. Bah justement, à ce propos, j'annonce qu'il y a le prochain docteur Biceps.
Captain Biceps
qui va bientôt sortir.
Biceps, alors Roger.
Mais oui, c'est parce que voilà, il me faut que je boive une petite goutte de limonade. voilà, Captain Biceps, ça sort le 1er avril.
C'est Monsieur Thébault, ça.
Yes.
D'accord. Et c'est pas une blague.
Et là, c'est pas une blague.
Très
c'est
bien.
Pas le 1er avril. Non, je me permettrai pas. Moi, j'adore Captain Biceps.
Ouais, je plus sois là aussi. Alors, ça s'appelle donc
Amour, fascisme et CDD, Marc Dubuisson, chez collection Patakès, aux éditions Delcourt. Voilà, toujours excellente collection Patakès, je tiens à dire quand même.
Très bien. Interlude musicale. Boum. Vous avez sans doute reconnu la voix de Kathleen Anna sur The Julie Rin. Là, vous la connaissez peut-être du Tigre. En tout cas, j'adore cette voix et j'adore ce groupe de Brooklyn. J'adore les New Yorkais. Il nous reste le temps d'une chronique. À vous, mon bon Roger. Je vois que vous êtes plongé.
Voyager si vous avez envie de voyager dans le pays des hautes herbes. Pays des hautes herbes, comment c'est un album paru, alors c'est pas le pays des hautes herbes, c'est les hautes herbes tout court, que l'on doit à Laurine Klein et Monsieur Grune, comment chez Daniel Maguen. Monsieur Grune, que l'on connaît
Monsieur
bien.
Monsieur Grune.
Vous diriez comment, vous, Monsieur Grun?
Air Grun.
Eh ben, je vous laisse vous le dire parce qu'il fait du jujitsu.
Oui.
Donc moi, je l'appelle Grune, puis voilà, et puis c'est tout. Enfin, j'espère, mais maintenant, s'il veut qu'on l'appelle Monsieur Grun, il a le droit, je veux dire. Mais là n'est pas le propos. Moi, je l'avais découvert avec Space Relics, que j'avais bien aimé.
Ouais, c'était sympa, ça.
Space Relics Hunters, avec un scénario de Sylvain Rosberg. J'aimais bien cette idée-là.
On les avait rencontrés, d'ailleurs.
Ouais, trois tomes, c'était sympa.
De SF.
Par contre, je connais pas les autres. Chez Dargo, La Conjuration d'Opale. Chez 12 bis, Le Souffle du Vent. Et chez Glénat, Métronome, 5 tomes et un coffret. Putain, on est à la rue. Voilà, et ça c'est pour le côté à la rue. Mais attendez, il y en avait un qu'on connaissait, c'est pas mal quand même.
Ouais, ouais, on peut dire ça.
Voilà, et en compagnie cette fois de Laurine Klein. Ah c'est vrai, vous allez me dire on dit Klein. Enfin moi je veux bien.
Attention, non, il y a des noms
tous les noms.
Non, pas ceux-là.
Ah ouais, et voilà, et on finit comme la mélange. Ostracisé, on vous crache à la gueule, on vous traite d'antisémite.
Si y a récidive, oui.
Alors moi ce que j'aimerais bien maintenant, pour éviter d'être emmerdé, ce que j'aimerais bien, c'est la phonétique. S'ils pouvaient mettre
dans les fiches qu'on nous enverrait.
Ouais, dans les fiches il y a la phonétique, ça nous aiderait à ne pas nous mettre pour raconter de merde, quoi. Parce qu'on peut très bien dire Laurine Klein et Monsieur Grun au scénario, comme Laurine Klein et Monsieur Grun au dessin, vous voyez. Et du coup, mais cela ne fait pas avancer notre propos. Les hautes herbes. Alors les hautes herbes, moi j'ai bien aimé les hautes herbes parce que toujours ce dessin magique de Monsieur Grun, appelons-le comme ça pour en finir, parce que sinon on n'en finira jamais. Et on nous propose un monde, bah, ça ressemble à la Terre, sauf que les bestioles sont pas tout à fait pareilles que sur la Terre, mais comme sur la Terre on peut les chevaucher, il y en a qui ressemblent vaguement à des chevaux mais avec des cornes, il y en a d'autres qui ont quand même des têtes de bons vieux buffles plus ou moins sympas. Pas, en tout cas fort à la tâche. Et puis, comme sur la Terre, on se fout sur la gueule, on s'aime pas.
On est dans l'espace, c'est de l'héroïque fantasy, c'est du space opéra,
c'est sur une planète, je vous dis, c'est une planète qui ressemble à la Terre, mais qui ressemble à la Terre dans le sens où toute la faune et la flore, comme chez nous, on y respire peinard, sans masque et tout. Et il y a des bestioles plus ou moins cheloues. Et sur cette planète-là, le monde est divisé en plusieurs clans. Depuis les origines, si vous voulez. On l'apprend. D'ailleurs, on l'apprend avec des jolies pages en sépia, comme ça, pouf, pouf. Et ça commence comme ça. Il y a bien longtemps, le grand Colo a fait le monde. Et il nous dit, à chaque élément, il apportait son souffle vital et subtil. Puis, il a fait les animaux. Il commença par les petites ciblétilles, des espèces de bestioles qui ressemblent à des libellules cheloues tout en bleu, façon Casa, un peu. On dirait l'univers à la Casa, vous vous rappelez.
Ouais, ouais.
Puis, les magnifiques et puissants Icores, ces espèces de bestioles pas sympas, des loups avec une crête et des chicots qui sortent. Et des oreilles pointues, pas sympas.
Patibulaires, mais presque.
Voilà.
Quoi.
Et puis, pour l'aider dans sa tâche, il donna naissance aux façonneurs. Efficace et besogneux, ils construisirent de nombreux abris pour protéger les animaux, c'est-à-dire d'espèces d'oiseaux géants, là, plus sympas, espèces de rouge-gorge géants. Et puis, il y a plein d'autres bêtes, etc., etc. Je vous dis, on est sur la Terre.
Et c'est quoi l'histoire ?
Eh bien, l'histoire, c'est que l'entité humaine va être créée, mais elle va se distinguer en plusieurs clans un peu antinomiques. Et ces clans, bien qu'ils soient interfécondables, on va dire, en tout cas, il semblerait qu'ils n'aient pas le même sang. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en aurait quand même sang noir.
Ça sent la métaphore, votre truc.
Sans doute un peu. Mais c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de cette opposition un peu débile entre, complètement débile, donc effectivement, entre les gens en fonction de la couleur de leur sang, sachant que pour le reste, rien ne les distingue, vous voyez. Et donc, on va voir
Vous restez dans une thématique un peu fasciste, non ?
C'est un peu l'époque qui veut ça.
J'ai l'impression.
Si on survit à tout ça, peut-être qu'effectivement.
En fait, quand je regarde toutes nos chroniques, là. Voyageurs de la Porte Dorée, tout ça.
La
tout
Porte
ça.
Dorée, fascisme et CDD.
Et, puis et on a aussi programmé une interview pour partir en Afrique.
Ouais. C'est, mais je crois que c'est l'époque qui veut ça.
Ouais.
Et donc, on voit l'itinéraire, ça commence cool avec un homme, une femme et leur petit garçon. Et puis, pouf! Un drame, et on se retrouve avec le petit garçon qui a grandi, et ça a bien 5 ans que les événements tragiques se sont passés, et le petit garçon, on sent que, on sait pas encore pourquoi, mais on sent qu'ils sont un peu proscrits, et donc ils se tiennent éloignés de tous, le plus possible, mais ils se débrouillent, ils chassent des bêtes, etc. Tout cela matiné d'une religion qui n'est pas sans rappeler celle des Indiens, vous savez, genre je tue la bête, mais je dois respecter la vie, tirouli, tiroula. Donc effectivement, des problématiques bien humaines. Et c'est donc un scénario que l'on doit à Laurine Klein et Monsieur Grün.
C'est un récit initiatique en même temps, c'est ça, en fait.
En même temps.
Même
temps. Et je vous dis, servi par le dessin de Monsieur Grün, fantastique, qui donne libre cours à sa fantaisie picturale.
Ah, très bien. Ça s'appelle donc Le Pays des Hautes Herbes, c'est ça?
Les Hautes Herbes. Je sais pas pourquoi j'ai dit le pays tout à l'heure.
Okay.
Les Hautes Herbes, tout court. Et c'est paru chez Daniel. Alors, vous dites Maguen ou Maguen? C'est pareil.
Vaste question. Maguen, on a eu confirmation plusieurs fois.
C'est vrai.
Eh ben partons, musicalement parlant, rejoindre Joël Alessandra.
Voilà.
Partons, prenons le large sur les traces de Rimbaud. Jeu est un autre, édition Maguen. On le retrouve à quai des Bulles après un petit voyage musical. Thank you.
Eh bien voilà, nous sommes le samedi, désormais à Quai des Bulles, et je suis en compagnie de monsieur Joël Alessandra, bonjour.
Bonjour, monsieur c'est super, hein. Ah j'aime bien quand on dit monsieur.
Alors normalement les auditrices et les auditeurs le savent bien, nous sommes deux à réaliser ces interviews. Ce matin je commence tout seul parce que mon alter ego a décidé de rompre avec sa vie professionnelle, et là il est parti passer un entretien avec le pacha du René Pleven II. Il veut partir à la pêche à la morue, à Terre-Neuve. Je pense que c'est l'ambiance virile, l'odeur du poisson, quelque chose. Donc, nous ne serons que tous les deux, monsieur Alessandra, mais je vais essayer de m'en sortir, on va dire.
J'adore cette intimité.
Alors, je vous rassure, j'ai lu le livre aussi, ne vous inquiétez pas.
Bravo.
On n'est pas des professionnels, donc on ne peut pas se permettre de ne pas lire le livre, vous voyez. Et donc, vous êtes là pour présenter au festival Quai des Bulles, Jeu est un autre. Jeu est un autre, paru aux éditions Daniel Maguen, avec un sous-titre, Un voyage avec Rimbaud.
Absolument.
Voilà, un ouvrage magnifique. Je vais vous dire un petit truc comme ça. Quand je l'ai reçu, pouf, je me suis promené dans le bus, hop, je l'ai reçu, il fallait que j'aille le chercher à la poste. Donc je vais le chercher à la poste, j'ouvre le colis, pouf, et je commence à le lire dans le métro. Hop, je me suis fait brancher. Oh, Rimbaud, magnifique couverture, etc. Et je ne l'avais même pas encore lu, c'est
vous dire. Déjà, un bon début. Merci beaucoup, en tout cas. C'est super.
Et en tout cas, monsieur Alessandra, on va, comme c'est la première fois que nous vous recevons, chez Plume et Pinceau, le nom de notre émission de bande dessinée, on a coutume de demander aux autrices, aux auteurs que l'on rencontre pour la première fois, comment ils sont tombés dans la marmite de la bande dessinée. Comment ils sont tombés dans ce piège infernal?
Alors, je ne sais pas combien de temps on a. Est-ce qu'on a une petite demi-heure?
On a une bonne demi-heure en général, parce qu'après, votre attaché de presse, Emmanuel, va nous tomber sur le paletot et elle va vous arracher, elle va tirer les oreilles.
Simplement, comme je pense que 80% des réponses que vous avez, c'est j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée.
Et... Pas forcément, mais est-ce que vous en lisiez, par exemple, quand vous étiez petit, votre père avait une bibliothèque, votre maman, je ne sais pas?
Mon papa était architecte, hein, il aimait beaucoup le dessin. Et j'ai fait une école d'art appliqué à Paris, voilà. Et j'ai baigné dans cet univers. Et à la moindre occasion, quand j'avais un petit peu de rond, j'allais acheter un album. Alors pas des gens connus, je connaissais pas, mais j'étais boulimique de récits dessinés, quelle que soit la nature. Alors, il y avait évidemment les classiques, hein, comme on a tous lu, Astérix, Tintin, etc. Mais même des histoires un petit peu obscures. Je lisais tout, mais vraiment tout. Dès que je tombais sur des cartons aussi chez des cousins qui avaient des Spirou, des pilotes, c'était les pilotes à l'époque, je lisais tout, etc. Donc vraiment, j'ai baigné là-dedans. Et je crois que c'est quand même un petit peu culturel, parce que je vois dans d'autres... Moi, je voyage beaucoup à travers le monde, je suis à peu près 4-5 mois par an en voyage. Je côtoie des jeunes de tout horizon, et je vois que quand même la bande dessinée, c'est assez culturel au final. Alors il y a des pays comme la RDC, le Congo RDC, où ils ont une culture de bande dessinée, mais qui est héritée de la colonisation belge et des Belges qui étaient présents là-bas. Mais sinon, c'est vraiment très culturel. Donc si, à mon sens, on n'est pas familier, si on lit pas de la bande dessinée, c'est très difficile quand même d'accéder à ce médium par la suite, il me semble.
Je crois aussi, effectivement. Il y a des autrices, des auteurs qui vous ont particulièrement marqué,
Absolument. Alors j'ai une chance absolument inouïe, c'est que il y a un auteur qui était un petit peu mon mentor et mon modèle, qui est Jacques Ferrandez.
Oui, on l'a rencontré hier.
Et ben Jacques Ferrandez a rejoint l'équipe Maguen, et donc c'est absolument fantastique de dîner avec lui et d'échanger. Alors hier soir, on était à dîner, je lui disais, mais voilà, j'ai acheté ton premier bouquin, c'était Nostalgia in Times Square. Et mais alors, j'ai remarqué que la première histoire, parce qu'il y a deux histoires dans cet album, la deuxième n'a pas la même patte, etc. Oh, il me regarde avec des yeux ronds, il me dit, ben oui, mais comment tu sais, comment t'as vu et tout. Ben, c'est génial, c'est absolument fantastique.
Voilà. Monsieur très gentil, puis un bon client, parce qu'on appuie sur un bouton, pof, et c'est parti. On adore monsieur Ferrandez. Alors vous avez déjà signé un grand nombre de bandes dessinées en France, mais en fait c'est en Italie, si j'ai bien étudié votre biographie, que vous avez publié votre premier album.
Alors c'était pas un album, c'est-à-dire que je suis arrivé en Italie, parce que j'ai travaillé en Afrique, et en Afrique j'ai rencontré une Italienne, donc je suis allé m'installer à Rome, et à Rome, donc chemin faisant, j'ai rencontré un éditeur de bandes dessinées qui était Mauro Paganelli, qui était l'Editore del Grifo, qui éditait à l'époque une revue mensuelle de bandes dessinées en kiosque, avec Giardino, Manara, Pratt, que des illustres inconnus en fait, hein, que des petits jeunes, voilà. Et j'ai commencé à BD en côtoyant ces gens en Italie, avec des histoires courtes sur l'Afrique, puisque je revenais de Djibouti, de l'Afrique de l'Est, en kiosque en Italie, voilà. Donc j'ai commencé comme ça, pas d'album à la clé, parce que c'était... des petites nouvelles, qui voilà, on n'a pas fait de livres. Et puis l'Italie, c'est il y a une qualité de vie absolument incroyable, mais au niveau paiement, salaire, etc., c'est un petit peu la bérésina. Donc je me suis, c'était compliqué. Du coup, je suis rentré à Paris et là, j'ai fait de la communication jusqu'en 2006. Et en 2006, j'ai fait mon premier album. C'était à la boîte à bulles. Voilà.
Ok. Parce que c'est vrai qu'on l'oublie, mais l'Italie est aussi une grande, un grand pays, une grande nation de la bande dessinée.
Absolument.
Et j'en veux pour preuve que pas plus tard qu'il y a trois semaines, dans un vide-grenier, j'ai acheté un lot de l'histoire de France en bande dessinée.
Mais oui.
Paru chez Hachette. Et en fait, quand on regarde les signatures, on a pratiquement 80% que des auteurs italiens. En fait.
Ouais, il y a du Sergio Toppi aussi, je crois.
Ouais, il y a du Toppi. J'ai même vu du Crépax.
Il y a Crépax, Toppi. Il y avait des grands noms comme ça.
Je les ai achetés pour ça, en fait, parce que vous savez, on est un peu au niveau du scénar, c'est un peu les belles histoires de l'oncle Tom, l'oncle Paul. Bon, voilà, voilà. On a la patte de Crépax pour nous raconter, je sais pas, vers Sergio Toppi.
Absolument. Mais j'ai aussi la collection. C'est une encyclopédie avec des dos bleus.
C'est ça. Et quand j'étais petit, mon plus joli cadeau de Noël, c'était tout l'univers. Je ne sais pas si vous avez connu
bien
ça.
Sûr, ouais.
Et la plupart des illustrateurs sont italiens aussi.
Ouais. Mais c'est dingue, hein.
Et on l'oublie. Alors, est-ce que c'est aussi parce que c'est comme vous dites, il n'y a pas assez de la bande dessinée. Est-ce qu'elle est distribuée aussi en album comme chez nous ou moins que
bah, en fait, il y a eu des hauts et des bas dans la bande dessinée italienne. Hein. Dans les années 90, 95, etc., c'était l'âge d'or de la bande dessinée italienne. Uh-huh. Après, il y a eu vraiment une dégringolade, voilà. Et ça recommence. Depuis quelques années, là, on a vraiment un creuset de grands auteurs italiens. Alors les noms m'échappent là maintenant, mais il y a vraiment des grands noms. Ça serait trop long. Je me souviens plus trop, mais il y a des choses absolument somptueuses qui sortent par des Italiens. Donc il y a un renouveau là de la bande dessinée italienne. Moi, je suis admiratif. Hein. Il y a vraiment des choses magnifiques.
On a eu la chance à Calébule avec Erwan de rencontrer Sergio Toppi, notamment.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, super. Ouais,
Et également la veuve de Dino Battaglia.
Ouais.
Et j'adorais, moi, ça paraissait dans Pilote, comment les histoires du golem, etc.
Absolument, oui. Mais là, à Quai des Bulles, il y a le stand Mosquito avec Lele Vianello. Je ne sais pas si vous connaissez Lele Vianello, qui faisait tous les décors, les voitures, les véhicules, les avions, etc. pour Hugo Pratt, pour les Corto Maltese.
Okay.
Et lui est là, il dédicace, il fait ses propres albums maintenant, mais on sent vraiment, il y a la patte de Pratt derrière.
Ah, excellent. J'ai vu où était le stand Mosquito. J'irai y faire un tour. Alors, vous êtes un grand voyageur, monsieur Alessandra, et votre album Ficri, à la boîte à bulles dont vous me parliez tout à l'heure, témoigne de votre travail à Djibouti en tant que directeur artistique. Pouvez-vous nous dire en quoi ça consistait ?
Oui, alors en fait, je ne sais pas, je travaillais au lieu de faire mon service militaire, que je ne voulais pas faire, évidemment, comme de nombreux camarades d'art appliqué. À l'époque, il y avait un ministère de la coopération qui maintenant a fusionné, qui n'existe plus, qui est le ministère des Affaires étrangères.
On disait des coopérants.
Absolument, ouais. Et donc moi j'ai fait une coopération en centre culturel. Il y avait au ministère de la coopération quelqu'un qui cherchait dans les écoles d'art appliqué des gens pour partir au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Et moi j'ai été recruté pour partir à Djibouti. Donc voilà, j'ai passé presque 2 ans dans la Corne de l'Afrique en voyageant à la frontière de la Somalie, en voyageant en Éthiopie, en essayant de traverser pour le Yémen, mais je me suis fait choper. Et du coup cette atmosphère, cette ambiance que j'ai vécue, bon déjà ça a été une claque absolument magistrale dans ma vie, ça a été un tournant, je peux le dire sans détour, hein. Vraiment ça a été un tournant dans ma carrière professionnelle, enfin dans ce que j'avais envie de faire dans la vie, dans ma manière de voir les gens, de voir le monde, de voir les autres, ça a été fondamental. Et je suis vraiment très très content d'avoir pu faire cette expérience là et ça me poursuit toujours aujourd'hui, enfin ça me poursuit sans poursuivre, c'est-à-dire que j'accueille volontiers ces réminiscences et j'en parle assez souvent dans mes livres en fait de cette partie du monde. Ça fait 30 ans que j'y retourne.
Parce que justement, c'est ce que la question suivante. En fait, on a l'impression que par rapport à cet album-là, par rapport à votre dernier album, donc Je vais être un autre, il résonne un peu en écho avec Phil Cree à partir.
Oui, alors il y avait déjà
certaines thématiques des lieux que vous avez visités.
Absolument, oui. Ben déjà dans Phil Cree, il y avait un ersatz de fantôme de Rimbaud qui passait par là et j'ai voulu aller un petit peu plus loin avec cette histoire, parce que c'est quand même assez fascinant, cette histoire de ce poète universellement connu qui arrête d'écrire à 19-20 ans et qui décide de partir, l'homme aux semelles de vent, et qui va à Chypre, qui va en Arabie Saoudite, qui va en Égypte, qui s'installe à Aden, puis au Harar. Harar, qui est la quatrième ville sainte de l'islam, dans un pays qui est l'Éthiopie, qui est globalement chrétienne orthodoxe, voilà. Ah. Et alors, je sais pas si on peut déjà en parler un petit peu, mais
j'y venais justement. Comment s'est née l'idée de cet ouvrage?
L'idée, c'est que moi, je vais souvent donc là-bas, comme je le disais, et je me retrouve une année au Harar et je fréquente, je tourne un petit peu, là, je dessine, et puis j'arrive sur, il y a le tombeau d'un cheikh qui est un cheikh soufi en fait, et puis je me renseigne, etc. Et puis je vois que les soufis, alors c'est une branche de l'islam, le soufisme, qui valorise, qui parle de la religion à travers la danse. On connaît les derviches tourneurs en Turquie, le chant et la poésie. Et bizarrement, au Harar, où Arthur Rimbaud passe les 10 dernières années de sa vie, il y a une communauté soufie qui fait de la poésie. Donc, moi, je me dis, mais c'est incroyable quand même. Enfin, c'est pas possible qu'un poète comme ça, qui a arrêté d'écrire de la poésie, se retrouve dans une communauté soufie qui fait de la poésie sans en écrire de nouveau. Et alors, j'ai regardé, j'ai cherché un petit peu à droite à gauche, et j'ai jamais trouvé de Rimbaldien comme Claude Jeancola ou Borère, etc., qui parlait de ça. Bizarrement, qui parlait d'une éventualité, d'un rapprochement entre Rimbaud et les soufis poètes du Harar. Et donc je me suis dit, mais c'est pas possible que Rimbaud ait arrêté d'écrire à ce moment-là. Et donc je suis parti un petit peu sur ces traces, j'ai essayé d'enquêter, je suis resté un petit moment au Harar, d'Iredawa, je suis allé enquêter à Tadjoura, au Bok, différentes villes de la Corne de l'Afrique où Rimbaud est passé, Tadjoura où il a monté une caravane pour vendre des armes à Ménélik, au Négus d'Éthiopie. J'ai essayé de farfouiller un petit peu pour trouver le vrai du faux de tout ça.
Un drôle de bonhomme, Rimbaud. Alors moi, c'est vrai que je ne suis pas trop versé dans la poésie, mais quand on voit un petit peu sa façon de fonctionner, etc., ses rapports tourmentés avec Verlaine, ça se termine bizarrement. Il y a eu une bonne émission sur France Inter cet été où il parlait justement des rapports entre Rimbaud et Verlaine.
Il y avait Tesson avec quelque chose sur France Inter autour de Rimbaud.
Et on se dit, je sais pas, il paraît pas sympa, quoi.
Alors c'est quelqu'un de... Alors moi je le connais pas personnellement,
non,
j'ai pas eu cette chance,
mort,
hein, il est décédé un petit peu. Mais on a quand même beaucoup d'écrits et de témoignages qui sont contemporains. C'est-à-dire que lui a une correspondance assez foisonnante avec sa sœur et sa mère depuis la Corne de l'Afrique vers Charleville.
Oui, j'ai découvert ça dans votre album d'ailleurs.
C'est absolument incroyable, si vous avez l'occasion de lire, ça s'appelle Correspondance du Harar, c'est vraiment fantastique. Et on sent effectivement, entre les lignes, l'irascibilité de ce personnage. Sans concession, quelqu'un de dur. Le climat de la région est propice à ça. C'est-à-dire qu'il faut être. Les Danakil sont les Afars, les Bédouins, enfin qui ne sont pas des Bédouins, mais en tout cas les bergers et les. Les nomades de la Corne de l'Afrique sont des gens très, très durs. C'est le climat qui veut ça. Et Rimbaud doit être dur aussi pour pouvoir survivre dans cet environnement. Je pense que c'était quelqu'un de. Sans concession, qui était très. Mais très ambigu, vous avez raison, parce que. On connaît son penchant, ses penchants homosexuels avec Verlaine, mais il avait une idée fixe qui était quand même de fonder une famille, d'avoir une situation, une femme, des enfants qu'il pourrait élever à sa manière, il précise ça comme ça, et c'est assez étonnant quand même parce qu'il a des rapports homosexuels, mais en même temps vouloir fonder une famille, il passe du temps avec une Éthiopienne, une Abyssine chrétienne, qu'il abandonne contre quelques...
Taël, c'est ça.
Non. Mariam.
Oui, Mariam, mais la monnaie, je ne sais plus.
Ah, les thalers.
Ouais, les thalers,
qui est la monnaie locale. Ah. Et ce qui est quand même assez symptomatique, c'est qu'il renonce à cette relation pour s'aventurer dans le commerce. C'est la deuxième obsession. C'est-à-dire, la première, c'est fonder une famille, mais on ne va pas fonder une famille avec une Africaine. On va fonder une famille avec quelqu'un d'une bonne famille française. Enfin, on est au 19e quand même, c'est quand même un état d'esprit un petit peu. Et la deuxième obsession, c'est faire fortune dans le commerce. Donc, il préfère abandonner sa compagne et s'embarquer dans une aventure de commerce des armes. Voilà.
Alors, justement, comment Erwan, lui, notait, comment mon camarade, futur marin pêcheur, me disait que lui, le pouvoir magique des rêves, je vous lis sa question, de la poésie, le soufisme, le présenté par les traces du passé. Est-ce que cette BD n'est-elle pas, après tout, un grand trip mystique avec Rimbaud comme lapin blanc?
Alors, un trip mystique. Alors...
Un trip, hein, il dit un trip mystique.
Un trip mystique. Alors, un trip, on peut parler de trip parce que faut dire quand même que dans cette région de l'Afrique, il y a une drogue locale qui s'appelle le cat.
Ouais, j'ai une question là-dessus.
Ah, bah alors,
j'aime bien. Voilà, allez-y, bah, allez-y, parlez-en.
Le cat, alors moi, quand j'étais à Djibouti, le vendredi, on allait brouter. Alors, on dit brouter parce qu'en fait, c'est une feuille d'amphétamine. Mmh. Et on mâchonne cette feuille. Et petit à petit, la feuille, plus une autre feuille, plus une feuille, fait une boule. Et donc, on parle avec la boule.
Alors, c'est mon collègue qui veut s'engager dans les bateaux de pêche.
Ah, bah, d'accord. Il est bah, bravo. Belle mentalité.
J'ai dit à monsieur Alessandra que vous comptiez vous engager dans la marine de pêche.
À la pêche à la moule, alors. Entre autres.
À la pêche au gros.
À la pêche au gros, d'accord.
Est-ce que ça s'est bien passé, cet entretien avec le Pacha du René Pleven?
C'est bon, je signe demain.
Ah, bien, 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 bien. Comment dirais-je, Emmanuel, saluez votre courage, d'ailleurs.
Oui, mais Emmanuel est d'une naïveté, je lui ai dévoilé. Enfin,
c'est moi qui suis un grand malade, c'est ce que j'ai dit à monsieur Alessandra.
Emmanuel est quand même l'attaché de presse des éditions Maguen, hein. Faut saluer quand même, repréciser,
mais elle
quelqu'un
est
de sérieux.
Sur, elle
hein.
est connue sur notre antenne.
Quelqu'un de sérieux,
ouais,
quand même.
Ouais. Enfin, ah, c'est notre sainte patronne depuis des années.
Elle est en figure de proue des bateaux, chez vous, ouais. D'accord.
Alors justement, j'en étais à la question 10, votre question, Erwan, avec le pouvoir magique des rêves, la poésie.
Ah oui,
soufisme.
Moi j'ai trouvé que c'était une BD très mystique en fait.
Mais complètement. Alors mystique à plein d'égards, et notamment, on parlait du cat là justement, qui...
M'étonne pas.
C'est ma question. Le cat, je demandais à monsieur Alessandro.
Moi j'ai habité, comme je disais en début d'interview, j'ai habité presque 2 ans à Djibouti, et le cat, qui est une amphétamine qui est cultivée sur les hauts plateaux éthiopiens, la plaque tournante est entre Diredawa et le Harar. Rimbaud brouté, on dit brouté. Rimbaud caté à longueur de journée, comme moi je catais à longueur de journée quand j'étais à Djibouti. C'est un phénomène un petit peu social, c'est une amphétamine. On part dans des... Voilà, on s'assoit, ce qu'on appelle le Mabraz, qui est une salle réservée avec nos noms sur les murs, et on refait le monde. On refait le monde, on est entre deux eaux, alors on est porté. Après, ensuite, on est très excité, parce que c'est une amphétamine, alors on dort pas de la nuit.
Ah ouais,
et puis à midi, le cat arrive du train ou de l'avion, donc on rachète du cat et puis il rebelote. Donc Djibouti est paralysé par le cat et Rimbaud était entre ces deux. Il était entre sa volonté de faire fortune avec le commerce, mais en même temps happé par ce territoire et par cette ambiance. Il faut aller au Harar. Le Harar, c'est une ville médiévale, musulmane, mais à la fois chrétienne. Donc on est ballotté entre les chants des liturgiques chrétiens pendant toute la nuit. Les musulmans prennent leur lait vers 4-5 heures du matin avec les chants du muezzin, etc. Les soufis sont là qui nous bercent de poésie. On peut que imaginer Rimbaud tiraillé par toutes ces ambiances, par toutes ces choses.
Mais votre mélanger. Personnage lui-même, il croit voir Rimbaud. Enfin, il a comme des visions. Enfin,
c'est étonnant parce que moi j'ai eu la chance de faire. C'est comme ça que débute l'album. J'ai fait une exposition à Charleville-Mézières à l'issue d'un livre que j'avais fait sur le train djibouto-éthiopien dans la Corne de l'Afrique. Donc j'ai des planches qui sont dans la collection du musée Rimbaud à Charleville. Et j'ai fait une exposition et j'ai séjourné en résidence pendant une semaine dans l'ancienne maison de Rimbaud, qui est dans l'arrière-cour du musée, etc. Et c'est vrai qu'il y a des énergies, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je ne suis pas mystique pour être mystique, mais on ne peut pas rester insensible à tout ça. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis ce personnage est tellement...
Oui, c'est le personnage aussi. Rien qu'avec le poème Voyelle, il est associé à...
Très visionnaire dans sa poésie, notamment dans Une saison en enfer, où beaucoup de choses qu'il écrit... À l'époque où il n'est pas encore parti, où ce n'est pas encore l'homme au sommet de vent qu'on connaît à travers ses voyages à Chypre, en Arabie Saoudite, etc. Il est déjà dans la description presque matérielle de ce qu'il va trouver dans l'aridité des paysages du Harar et dans ses conditions de vie là-bas. C'est assez troublant, vraiment. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez passionnant de côtoyer. Mais je suis plus intéressé... finalement par le personnage, par l'homme, que par le poète. Il a une vie absolument...
En même temps, vous n'êtes pas un trouillard, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les régions, Somalie, Yémen, etc., ce ne sont pas les régions qui sont réputées les plus...
calme.
Et plus calme, on va dire. Et bah, vous, c'est pas grave, vous partez, vous y allez, vous.
Oui, alors moi, j'ai un petit peu la pas l'habitude, parce que c'est pas une habitude, mais je vais beaucoup dans des pays quand même qui sont dans des zones, aujourd'hui des zones de conflit. Je vais en Centrafrique, je vais beaucoup en RDC, dans le Kivu, en fait, entre Goma et Bukavu, il se passe plein de choses. Je vais faire de la formation de jeunes auteurs de bandes dessinées là-bas. J'ai fait des trips dans le désert de l'Enedi, au nord du Tchad, pendant des semaines en voiture. Là, je repars en Mauritanie, à la frontière... la semaine
avec le Front Polisario dans le coin.
Alors le Front Polisario, c'est plutôt c'est le Sahara occidental, ça s'est un petit peu calmé puisque la France a soutenu le Maroc dans sa prise en main du Sahara occidental.
Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, on verra.
Je pense pas non plus, mais voilà. Mais il y a des intérêts qui nous dépassent quand même, hein, parce qu'il y a des terres rares, il y a des métaux précieux, il y a plein de choses dans le Sahara occidental qui intéressent tout le monde.
La pêche.
Il y a le surf aussi. Il y a des gens qui vont faire du surf. Thank you.
Alors moi, je trouvais quand même que graphiquement, par contre, on imagine que c'est des lieux complexes à représenter, ne serait-ce que pour des questions de luminosité. Et je crois que vous avez effectué justement un séjour, vous y avez effectué plusieurs séjours. Est-ce que c'est un plus pour la documentation, pour retranscrire les lumières? Comment vous travaillez?
Alors c'est pas un plus, c'est fondamental. C'est-à-dire, je peux pas imaginer faire un livre sans être allé sur place. Enfin, ça me semble complètement aberrant. On peut pas dessiner avec des images d'internet. Non, moi le vrai plaisir, il est de s'asseoir en brousse, il est de s'asseoir au recoin d'un village ou d'une ville d'Éthiopie et de dessiner sur mes carnets. Et tout de suite, le carnet, c'était un vrai passeport de toute façon, parce que les gamins arrivent tout de suite, ensuite les parents, il y a un dialogue qui s'effectue, même si je ne parle pas Lingala ou Swahili ou quoi qu'est-ce.
Vous parlez l'amharic, pardon.
Je ne parle pas l'amharic, je parle quelques mots, comme je parle quelques mots de Somali, mais je ne parle pas, ce sont des langues extrêmement difficiles en fait. Et par contre, le carnet est un passeport ça permet de communiquer tout de suite avec les gens qui nous entourent. Et pour le dessin, c'est vraiment fondamental pour rendre les ambiances. Je dis toujours, le carnet, c'est quand même quelque chose qui nous reste, qui est en nous. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, avec le numérique, on fait 100 000 photos à la seconde.
Et on n'en fait aucune, en fait.
Et on n'en fait aucune. On a le carnet. Moi, je peux prendre n'importe quel carnet, même d'il y a 10 ans, 15 ans. J'ouvre une page, je regarde le dessin, et ben, je me souviens parfaitement du moment où j'ai fait ce dessin. Du moment, presque les odeurs, presque l'ambiance. On mémorise les choses avec le dessin.
Ça, donc, c'est-à-dire que vous allez mémoriser, vous faites des dessins, vous mémorisez les lieux que vous visitez à travers vos carnets, et c'est ces carnets-là qui vont vous servir de base après pour réaliser votre
absolument.
Album.
Absolument. Oui, tout à fait. Alors, à la fois, les carnets peuvent être aussi scannés directement et mis en l'état, comme des facsimilés finalement dans le livre. C'est ce qui se passe sur
Oui, d'ailleurs, justement, ouais, parce que votre ouvrage se retrouve être quelque part à mi-chemin entre la bande dessinée classique, le carnet de voyage, etc. Quand on a des plans un petit peu comme ça.
Oui, j'essaye de plus en plus de m'affranchir du gaufrier, comme on dit en bande dessinée. Hein. Le gaufrier, pour les auditeurs, je ne sais pas si les gens connaissent.
C'est la planche, avec les casques. Quoi.
Avec le quadrillage, comme un moule à gaufre, en fait. On a des petits carrés. Et moi, j'aime bien prendre mes aises.
Là, par exemple.
Je travaille beaucoup en double page, avec des dessins qui débordent d'une page à l'autre, avec de temps en temps une vignette et quelques bulles pour dire que c'est une bande dessinée. Mais en fait, j'aime beaucoup le terme un petit peu snob de roman graphique, parce que pour moi, la littérature, le dessin, le voyage, le récit, la narration, tout ça est lié, la littérature, enfin voilà. Et Rimbaud est un sujet de prédilection pour raconter des choses absolument incroyables.
Alors justement, vous travaillez pour les éditions Daniel Maguen. En quoi les éditions Daniel Maguen, c'est un plus pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte en plus que vous pouvez vous apporter à
d'autres éditeurs? Alors, il y a déjà un éditeur qui est absolument exquis, de bienveillance, de gentillesse. On va le citer, c'est Vincent Audin. Mm-hmm. On a travaillé ensemble sur ce livre. Il a été derrière tout le temps à suggérer des choses, à dire « Mais pourquoi t'explores pas cette piste-là? Pourquoi tu fais pas ci ?» C'est vraiment précieux dans le monde de l'édition aujourd'hui d'avoir un éditeur qui est présent. Voilà. Il y a beaucoup de maisons avec qui on travaille, où les éditeurs sont là, au demeurant hyper sympathiques, hein, il y a aucun souci, mais qui, on aimerait quelquefois, parce qu'on est quand même finalement très seul dans notre métier, hein, on est à la table à dessin, difficile. Alors moi j'ai la chance d'avoir une compagne qui est plasticienne, et donc qui peut avoir un regard au quotidien sur mon boulot, mais sinon on est un petit peu livré à nous-mêmes. Et avoir un éditeur qui régulièrement nous donne des inputs, regarde, nous dit ça serait mieux si tu pouvais faire comme ça. Peut-être pas, ce serait mieux. Peut-être as-tu songé à Vincent Audin est comme ça. Donc ça, c'est déjà la première chose. La seconde, c'est que les éditions Daniel Maguen, ils ont un amour de l'objet, vraiment.
Y a pas une BD qui ressemble à une autre.
Non, et puis il y a un effort qui est vraiment fait sur le choix du papier, le choix de la texture de la couverture. Si vous touchez l'album, il y a une espèce d'effet toilé sur la couverture qui est assez sensuel. Hein, un choix du papier.
Le nombre de pages varie d'un auteur à l'autre.
Oui, en fonction du récit qu'on a apporté, en fonction du type de narration qu'on veut faire. On est en train d'essayer de réfléchir à un autre peut-être un prochain livre, mais qui aurait une forme encore différente. Enfin, et c'est ça qui est fabuleux dans l'édition, c'est uh-huh. d'explorer des pistes qu'on n'aurait pas encore empruntées. Et moi, ça me parle, hein, les pistes.
Ça m'impressionne, parce que moi qui suis un peu trouillard, moi j'aime bien voyager, mais voyez-vous, moi, mes destinations préférées, c'est pas pour failloter, mais c'est l'Italie. L'Italie, c'est quand même calme, je veux
oui,
dire.
Oui, alors ça dépend où vous allez. Hein, quand
moi,
même.
J'étais à Naples avec ma chérie au printemps dernier.
Bon, nos amis de la Camorra.
C'est Naples. Et ça me rappelle. Mon papa était un grand voyageur, c'était un marin, et mon papa me disait, quand c'était le bordel dans ma chambre, c'est Naples ici.
Moi, c'était Beyrouth. Moi.
Et ma femme, lorsqu'on a visité des quartiers dans le centre de Naples, a dit, je comprends mieux quand tu dis c'est Naples.
Ça ressemble à notre salon.
quand j'ai mon chien qui arrive avec ses potes, ouais. Alors, il y a une couleur qui domine dans cet album, moi j'ai trouvé, c'était le bleu du ciel, de la mer, des vêtements aussi.
Puis c'est la couleur du spirituel. On parlait, on évoquait ça tout à l'heure. C'est la couleur du ciel, du divin, c'est la couleur de l'immatériel, et c'est la couleur de la réflexion, le bleu, vraiment. Klein en parlait beaucoup avec son bleu Klein. On est vraiment dans de l'immatériel, ouais, c'est le mot, dans de la réflexion, dans quelque chose de spirituel, mais de spirituel pas au sens réflexif, mais au sens aussi l'au-delà, un petit peu, c'est-à-dire côtoyer les fantômes, moi je suis assez proche de tout ça. Ma compagne est née au Laos, et il y a un hôtel des ancêtres. Et les ancêtres sont là au quotidien avec nous. Ils sont à table avec nous quand on mange. Il y a cette perméabilité entre les différentes strates de notre univers. Je pense qu'il y a quelque chose, quoi. Et de temps en temps, quand on rêve avec Rimbaud, on met un pied de l'autre côté et on revient.
Alors, on parlait de fantômes tout à l'heure, on parlait de fantômes de Rimbaud. Est-ce que vous avez croisé celui d'Henri de Montfred ? Je suis un fan, moi, de Henri de Montfred.
Ah bah, bien sûr.
Et ce qu'il y a de génial avec votre bouquin, c'est que vous avez représenté Obock. Et Obock, c'était un des lieux où Henri de Montfred avait une de ses bases. Absolument. Donc, ça m'a permis de voir Obock, en fait, autrement que par l'imagination et que par ses paroles et par ses textes. Et également les boutres, les fameux boutres, parce que Montfred n'aimait pas trop les bateaux à moteur. Reconstruire des bateaux type.
Il a construit son propre boutre, etc. Alors moi, j'ai fait un périple une année. Kessel aussi connaît bien le territoire. Et Kessel a rencontré Montfred, parce qu'il faisait... Kessel était journaliste. Et il veut faire un sujet sur les esclaves. Et on lui dit, va à Djibouti. Il y a un type qui s'appelle Montfred qui fait du trafic d'esclaves. Et Kessel va rencontrer Montfred. Il s'aperçoit que pas du tout. Montfred fait pas du tout. Il fait du commerce de perles. Il fait
d'armes aussi.
Un peu d'armes également. il le raconte abondamment dans Les Secrets de la Mer Rouge, entre autres. Il a écrit plus de 48 bouquins sur la Corne de l'Afrique, Montfred. Et Kessel écrit un roman, il va dans l'Oued Kalou, il rejoint le fond du Goubette, et Montfred vient le chercher avec son boutre pour partir. Et moi, j'ai fait un périple avec le bouquin de Kessel pour voir si effectivement il était bien passé par là, s'il avait bien rencontré Montfred, et on retrouve toutes les pistes.
D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Kessel qui avait convaincu Montfred qu'il fallait qu'il raconte
tout cette histoire. Tout à fait, vous avez tout à fait raison.
Moi, ça me fait rêver, même si aujourd'hui, je n'oserais jamais y aller, je me dis, purée, je vais me faire égorger.
Alors, ce qui est rigolo, mais ça risque rien, allons. ce qui est rigolo, c'est qu'à Djibouti, par exemple, il y a une place Rimbaud, il y a une rue Kessel, etc. Mais Montfred a été rayé de la carte des noms de rue, de places, etc.
Chez nous, après-guerre, il n'était pas très bien vu parce qu'il avait soutenu l'invasion de l'Éthiopie, comme Henri Montfred.
Alors, c'est très, très, très ambigu. Il a été aussi emprisonné par les Anglais.
Il a été emprisonné par les Anglais.
Oui, comme espion à la solde des Italiens, mais... On ne sait pas vraiment, en fait, ce qui s'est passé.
Il avait des paroles très dures pour le Négus. Il détestait le Négus, qu'il considérait comme un espèce d'autocrate moyenâgeux, etc.
Ouais. C'était le dernier empereur d'Éthiopie, quand même. Quand même, il faut le préciser, le dernier, le dieu vivant des Rastas.
Des Rastafari.
Ouais.
Alors plus proche de nous, on a souvent la chance de rencontrer M. Jean-Denis Pondanx, vous connaissez ?
Oh, bah oui.
Et on est des grands fans aussi, il se rend régulièrement en Afrique. Ouais. Et là il vient de sortir un bouquin qui s'appelle « Les poissons ne meurent jamais ». Les poissons ne pleurent pas, eux.
Avec Galandon.
Ouais, et ouais. C'est un ouvrage terrible sur l'exploitation de l'Afrique. Vous l'avez rencontré, M. Pondanx ?
Oui, alors je le connais assez bien, puisque lui aussi a fait une coopération en Afrique. Hein. Oui. Donc je crois qu'on est tous un peu issus de cette... de cette école de la vie qui nous a façonné dans ce qu'on fait aujourd'hui en termes graphiques. Moi j'ai une admiration particulière pour lui parce qu'en plus il est peintre, il fait des tableaux fantastiques, des peintures de la nature incroyables. Ouais. Enfin, il est complet, il a un dessin fabuleux, il sait rendre les ambiances. Moi je me sens très proche de son travail dans le sens où je me retrouve énormément dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il décrit, dans ce qu'il dessine. Et c'est quelqu'un de, en plus d'une modestie incroyable. Enfin,
et d'une grande humanité avec l'œil du marabout, là, son avant-dernière BD, c'est hallucinant.
C'est très très chouette. Moi j'adore ce type.
Ah ouais, moi aussi. On a
alors on peut citer aussi Flao, qui est Benjamin Flao,
tout à fait.
Qui est, en plus, on connaît des coins en commun au Kenya. Et pareil, c'est rigolo que vous citiez cet auteur, Jean-Denis, et Flao, qui sont les deux. J'espère. Je suis à leur côté dans la manière, un peu modeste et j'essaye d'aspirer à ce qu'ils racontent de la même manière. Ce sont vraiment des modèles.
Alors justement, l'heure tourne malheureusement, 31 minutes déjà.
Wow.
Dans votre biographie, nous avons découvert que vous avez participé à deux ouvrages collectifs, l'un sur les Beatles et l'autre sur Pink Floyd. Est-ce que vous travaillez en musique, vous, monsieur ?
Alors, j'en ai fait beaucoup plus, là, aux éditions petit à petit, mais j'ai fait ACDC, j'ai fait Bob Marley, il y en a beaucoup, hein, et j'ai essayé de participer, enfin, on m'a sollicité pour participer à la plupart des ouvrages collectifs autour de la musique. Oui, alors moi, je suis très... j'ai du mal à écrire en musique, je peux pas. Enfin, j'ai un manque de concentration, je suis pas multitâche, et quand il y a de la musique, je peux pas écrire. Par contre, et dessiner non plus, je n'arrive pas à faire de storyboard ou faire de crayonné en musique, c'est très difficile. Par contre, dès que je passe à la couleur, à l'aquarelle, etc., là j'ai besoin de musique. Alors j'écoute beaucoup de reggae. Alors je sais. Quand j'arrête de picoler, je m'aperçois que c'est de la musique de merde. Quand j'arrête de fumer, comme disent les Rasta. Non, j'écoute beaucoup de reggae. Puis j'écoute de la musique. Moi, je suis assez doux en musique. Hein. J'ai du mal avec les choses un petit peu agitées. Voilà, j'ai besoin de calme, de sérénité.
Alors on va terminer par une dernière question, une question fil rouge qu'on a posée à toutes les autrices et tous les auteurs qu'on a rencontrés depuis hier, c'est sur la couverture.
Ouais.
Comment vous avez pensé cette couverture et comment vous l'avez réalisée? Qu'est-ce que vous vouliez montrer? Est-ce que vous avez été totalement libre dans le choix de cette couverture?
Alors pour être tout à fait honnête, on a fait, je pense, une trentaine de tests de couverture.
Ah ouais, quand même.
Très difficile d'exprimer la phrase de Rimbaud, puisque « Jeu est un autre » est tiré d'un courrier qu'il avait adressé à Isambard, un de ses professeurs. C'est très difficile d'exprimer cette dualité, c'est moi-même qui me mets en scène dans les pas de Rimbaud, je suis à la fois un Rimbaud sans être un Rimbaud, il est là, il n'est pas là, enfin, c'est quelque chose d'assez impalpable. Il fallait exprimer le voyage. Il faut exprimer l'ailleurs, il faut exprimer... et je pense que la mer, c'est quelque chose... Et puis là, on est à Saint-Malo, donc ça tombe pile poil. Mais la mer, et puis cette omniprésence du bleu sur la couverture, nous emmène vers cet ailleurs, vers ce voyage, vers cette spiritualité qui est latente et omniprésente entre les pages de l'album. Et puis on a ce déplacement de gauche à droite, c'est-à-dire qu'on va vers l'avenir, on va vers quelque chose de nouveau, de beau, et voilà. Est-ce que j'ai répondu ?
Ben, tout à fait, tout à fait. Et quels sont vos projets, du coup, alors, monsieur Alessandra ?
Alors là, je pars en Lettonie la semaine prochaine. Ensuite, j'enchaîne à La Réunion, où Jeu est un autre et nominé pour le prix du festival.
Excellent.
Ensuite, j'enchaîne sur la Mauritanie 3 semaines. Je vais aller me balader un petit peu pour dessiner le désert. Ça me manque un petit peu. Et voilà. Et puis, il y a des livres en cours. Il y a un projet chez Delcourt qui peine à avancer, mais qui avance doucement. Voilà. Alors, c'est un sujet un peu terrible. C'est sur les migrants qui sont séquestrés en Syrie et torturés, etc. Donc j'ai du mal. En plus, j'ai beaucoup de documentation visuelle par rapport à ça. Donc avec quelqu'un de chez MSF. Après, il y a d'autres projets qui sont dans les tuyaux. On s'arrête jamais.
Eh, super. Eh bien, écoutez, on vous remercie, monsieur Alexandra. Enfin, je vous remercie, puisque notre ami Erwan
est parti. Ça y est, il est embarqué, il est parti, ça y est, sur le bateau.
Mais je vous dis, c'est cette ambiance masculine. On aurait jamais dû réserver à chaque fois des lits matrimoniaux. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
C'est terrible. Hein. On peut faire confiance à personne. L'appel du large. Merci infiniment. Merci. Bonne journée.
À vous aussi, au revoir.
Au revoir.
Retour en studio, mon bon Roger. Revenez à votre table, vous étiez en train de danser sur le morceau de Walias Band.
Oui, très très bien. On reconnaît
ça
bien,
vous a rappelé les vieilles trompettes.
Ouais, et puis c'est ce style particulier au jazz éthiopien, je dirais.
Ouais, c'était donc une playlist qui devait accompagner Joël Alessandra. Joël est un autre, sur les traces de Rimbaud, dans la Corne de l'Afrique.
Tout à fait.
Jusqu'à Aden au moins, et voire même plus loin. La semaine prochaine, mon bon Roger. C'est peut-être pas là, il paraît.
Je serai peut-être pas là, vous savez ce que c'est. On fait le con, et puis après, il faut aller se faire réparer.
Vous avez déjà prévu que la semaine prochaine, c'est grosse cuite?
Non, c'est pas prévu grosse cuite, c'est plus prévu, on va chez le garagiste.
Donc, oh mon pauvre ami, je vous plains.
Chez l'âge, on ne peut pas, vous savez ce que c'est. La vieillesse est un naufrage.
Tant que vous nous revenez, tout.
Normalement, c'est prévu le 10. Entre-temps, vous aurez fait un stage de formation Zoom, puisque nous oui, devrons avoir réalisé une émission par une interview téléphonique. Comment j'attends encore confirmation, mais le 10, ça serait pas mal. 10 avril, en compagnie de... Bah, c'est marrant, tiens, le monde est petit, de la fille d'un monsieur que nous aimons bien, monsieur Laurent Houssin. Et voilà, voilà. Et avec plein d'amis IES... comment dirais-je, elle a monté un journal, donc il faut que je vous envoie tout le dossier complément pour que vous penchiez dessus et que nous puissions effectivement discuter de ce projet intéressant avec, comment dirais-je, ces jeunes gens. Voilà, voilà.
Plein de raisons donc pour écouter Plume et Pinceau. À la semaine prochaine.
On a toujours une bonne raison d'écouter Plume et Pinceau, toujours.
Exactement. À la semaine prochaine. Bonne lecture, tant qu'on a le droit.